Salut, salut les gars, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Sur la ligne, l'émission officielle balado, l'émission radio officielle de l'Omnium Banque Nationale. On est également diffusé au 91.9 Sport à quelques plages horaires durant la semaine. Nicolas Richard, est-ce que tu te remets de ton Masters de golf et de la, je vais dire, déconfiture de Tiger Woods lors du week-end? Ben, déconfiture, ouais, c'est peut-être fort un peu comme tel.
Ben oui, non, ça a été, sur le plan purement du golf, ça a été pénible là, samedi, dimanche pour Tiger. Mais j'aimerais bien voir qui de nous trois, les gars, aurait joué 4 rondes de golf après 14 mois où il est, il a failli mourir, a failli être amputé. Donc, de le voir simplement finir les rondes debout, sous les applaudissements de la foule en délire au Augusta National, ça a été un week-end parfait.
Et pendant que tu étais occupé à suivre dans le cadre de tes fonctions journalistiques le golf, ben Hugues, lui, suivait le tennis. Gros week-end de tennis pour le Hugues Léger?
Oui, parce que Monte-Carlo commençait. Les
on est moins sûr finalement.
Non, mais comme vous savez, j'ai testé positif à la fin de la semaine dernière, donc je suis un peu on and off, là, mais oui, j'ai quand même vu beaucoup de tennis. C'est une bonne façon pour moi de me guérir avec du bon tennis devant moi, donc ça me fait me sentir mieux. Mais oui, là, toujours intéressant de voir la transition de la saison printanière américaine vers la saison européenne, avec notamment Houston et Charleston qu'on a suivi. Là. Houston avec Opelka, on s'attendait à ce qu'on ait un autre Américain après Taylor Fritz, il y a quelques semaines, Indian Wells émerge. On a une finale Opelka-Eisner 100% américaine. Et Opelka a finalement remporté ce titre de très, très belle façon après avoir battu notamment Kyrgios en demi-finale, qui avait plus l'air d'avoir envie d'être du côté américain. Je vais être honnête avec vous aussi sur la performance de Kyrgios en demi-finale. Puis Belinda Bencic qui gagne à Charleston aussi, intéressant, très très bon début de saison. Là, c'est une des plus grosses, one of the fastest movers sur le circuit féminin, là, plus 13 positions cette semaine. Donc Belinda Bencic qui bat 11 jabeurs à Charleston. Donc c'est la fin de la saison américaine, mais je suis tellement prêt les gars pour la Côte d'Azur et la saison printanière sur terre battue rouge là, que tout de suite je me sens beaucoup mieux.
Ton ancien domicile là, à Monte-Carlo, là, ou presque. Là.
Ma domicile, et
ton,
non.
Et ton futur domicile.
C'était plutôt dans le nord de la France. Là. J'étais à Paris et à Lille, mais je ne manquais pas une occasion de prendre l'avion sur EasyJet, en bas de 100 euros d'ailleurs, pour me rendre jusqu'à Nice et aller voir le tournoi de Monte-Carlo qui est tout près. Je suis allé trois ou quatre fois, un des plus beaux sites de tennis au monde, comme on en parle souvent.
Alors, c'est parce que tu n'es pas venu à Saint-Jérôme, Hugues. C'est parce que tu n'es pas venu à Saint-Jérôme.
Je ne veux pas qu'on s'étende trop sur les résultats parce qu'on y reviendra. Je veux simplement souligner que je suis effectivement seul au Mont-Ville aujourd'hui parce que, Hugues a évité de vouloir me transmettre la COVID et je l'apprécie beaucoup. Mais sache que je suis bien entouré d'un staff plus sympathique que jamais et ça me fait plaisir de faire l'émission en direct d'ici. Je félicite aussi le gagnant du concours de... La semaine passée, en fait, on annonçait que c'était lors du dernier épisode, la date limite pour pouvoir s'inscrire. Et on a couronné un gagnant pour le concours qui offrait une paire de billets et une chambre à l'hôtel Montville. Et puis, c'est un jeune homme du nom de Jérémy Brunet qui a gagné. Moi, je ne le connais pas, messieurs, vous non plus, je ne crois pas que vous le connaissiez non plus. Si c'est un de vos amis, tant mieux pour cet ami-là, mais il n'y a personne de nous qui le connaissait. Alors, félicitations à Jérémy Brunet. Je sais que Sarah Jade est déjà entrée en contact pour avoir les coordonnées. Alors, on va sûrement se croiser à l'Omnium Banque Nationale. Jérémy, viens nous féliciter. Viens nous féliciter. Ben, tu peux aussi nous féliciter. Mais viens nous saluer. Et félicitations à toi, Jérémy. Ça sera un plaisir de te serrer la pince à l'Omnium Banque Nationale. Et tu nous diras comment ton séjour à l'Hôtel Montville s'est passé. Parlant d'Hôtel Montville, c'est un de nos partenaires au podcast et qui nous appuie depuis le début. Il y a des grandes choses qui s'en viennent. J'en dirai pas plus que ça là, pour le podcast, mais il y a des annonces qui vont être faites au courant de la semaine prochaine, de cette semaine, dans les prochains jours à tout le moins. Là, on verra comment ça va se dérouler, mais il y a des annonces qui s'en viennent et puis ça va être... comment je dirais ça? Le podcast va être directement ou indirectement impliqué dans ces annonces-là, puis c'est des bonnes nouvelles pour le tennis en général, puis c'est des bonnes nouvelles pour le podcast, je vais dire ça comme ça. Hugues, est-ce que je me trompe en disant ça?
Ben, essentiellement, ce qu'on cherche, c'est avoir une plus grande portée en termes d'audience et plus de fréquence dans nos prises de contact avec le marché. Et c'est vers ça que cette nouvelle annonce que tu teases en ce moment va révéler. Donc, sûrement que d'ici la fin de la semaine, on pourra communiquer à tout le monde les prochaines étapes de croissance pour le podcast.
Vous viendrez nous féliciter.
Oui, Jérémy Brunet particulièrement. Bon, ben, t'en as parlé un peu tout à l'heure, parlons de tennis puisque c'est notre mandat. Il y avait quelques tournois intéressants. J'aimerais ça qu'on commence du côté des femmes parce que Bencic, c'est un résultat intéressant. Elle continue de produire des résultats plus qu'intéressants sur le circuit. Puis on a l'impression que ça fait 100 ans qu'elle est là parce qu'elle a gagné un jeune âge, mais elle est encore très jeune, Belinda Bencic. Un résultat spectaculaire pour elle en fin de semaine, Hugues.
Oui, tout à fait. Là, écoute, elle se retrouve, elle a monté, j'ai dit de 13 tantôt, en fait, elle est à la 13e place, elle monte de 8 positions, mais effectivement, Bencic, moi, je la suis depuis quelques semaines, je dis, oh, il se passe quelque chose avec elle, et tout d'un coup, ça s'est confirmé par cette victoire à Charleston sur la terre battue américaine. Donc, elle est sur un très, très bon début de saison et elle va devenir un facteur là, dans la saison sur terre battue qui débute du côté européen. Et je pense qu'elle est bien en route pour se replacer dans le top 10. Puis effectivement, elle n'a que 25 ans quand même. C'est pas une des plus jeunes du circuit, mais quand même, disons qu'elle est dans la fleur de l'âge là, du tennis féminin. Donc, je pense qu'on va la voir beaucoup cette année, Belinda Bencic. Elle revient vraiment en force en ce moment.
Et tu parlais de Goffin à Marrakech. Bon, lui, ça faisait un bout qu'on n'avait pas entendu parler de lui, ou en tout cas, des résultats significatifs. Ça a dû lui faire du bien.
Exactement. Moi aussi, je trouvais que David Goffin, je me dis, ouais, il a sûrement perdu de son punch un petit peu. Vous le savez, c'est un très bon relanceur. C'est une machine à balles, David Goffin. C'était un des partenaires d'entraînement préférés de Roger Federer, justement pour cette régularité-là. Vraiment un joueur très, très solide. Mais on trouvait qu'il se faisait un petit peu bousculer depuis 2 ans. Et ben là, écoute, victoire quand même, au tournoi de Marrakech. Le Hassan 2, qui est un 250 quand même, mais quand même qui fait un saut de 27 positions au classement cette semaine pour pointer en position 47. Donc David Goffin qui s'en met sérieux là, pour l'année 2022, là, qui est bien en cours.
Oui, exact. Ben, il va être intéressant. C'est un joueur au petit gabarit, Goffin, là, mais comme tu dis, il retourne beaucoup. Et puis, ben, Opelka à Houston, tu en parlais un peu, finale toute américaine. Je dois dire que l'année passée, quand on avait parlé avec Ben Rutherberg, je me souviens d'avoir dit que les États-Unis étaient devenus un pays deuxième tiers, mais sont en train de remonter la pente assez vite, les États-Unis. Puis il y a beaucoup de résultats probants là, dans les derniers 6, 7, 8, 9 mois.
Oui. Écoute, c'était la bataille des service bots. Hein? On fait souvent cette blague-là avec les joueurs qui sont réputés pour leur nombre d'as durant un match, qui sont des machines à produire des as. Donc Eisner aussi, qui est, bon, évidemment, qui est plus en fin de carrière, mais qui a quand même fait un super beau tournoi. Puis effectivement, moi, on s'en parlait il y a une couple de semaines. Je pense que la belle performance de Taylor Fritz, mais vient inspirer tout le monde. Les Tiafoe, Opelka, aussi Korda qui s'en vient du côté américain. Là, je pense que le tennis américain est en train de se remettre sur les rails en ce moment. Et on le voyait pointe depuis quelques semaines. Même Tommy Paul qui avait bien poussé Nadal à Acapulco il y a quelques semaines au Mexique. Donc, c'est une belle performance pour les Américains et ça termine bien le US Spring Swing.
Ben non, ce que j'allais dire, c'est qu'on parle des messieurs, mais même chez les dames, les gars, souvenez-vous, lorsque Serena a commencé à décliner un petit peu, on regardait en arrière, on se disait, OK, oui, il y a Madison Keys, OK, il y a Sloane Stephens, qui est un petit peu, elle aussi, sur la pente descendante, mais lorsqu'on s'attarde au classement, on se rend compte, les gars, que les joueuses américaines grimpent rapidement et qu'elles deviennent des joueuses extrêmement dangereuses sur le circuit. On a dit qu'on avait en tête Danielle Collins aussi, qui a connu un bon début de saison. Coco Gauff, qui a seulement 18 ans, qui s'en vient aussi. On a Madison Keys, qui est toujours là, évidemment, qui est 22e. On a Anisimova aussi, qui représente les États-Unis. On a aussi une Sofia Kenin aussi, qui est loin d'être terminée. Bon, Stevens, qui est encore là, Alison Risk. Donc, ça pour dire que oui, chez les gars, ça pousse, mais chez les filles aussi, on n'a pas à se plaindre de ce côté américain.
Ouais, non, puis tu sais, c'est ça. Il faudra garder à l'œil les Brooksby dans les prochaines années, les Korda qui vont tout à fait se faire une place légitime dans le monde du tennis. Bon, ça c'est pour les champions, messieurs. je veux qu'on parle de Félix aussi parce que, bon, après un début de saison canon, disons que là, les choses se sont calmées dans son cas. Je pense que c'est 4 défaites à ses 5 derniers matchs. Bon, ouais. Dans les faits, là, c'est plus 2 défaites au premier tour à Indian Wells et Miami. Ça, c'est des défaites qui font un peu plus mal parce que c'est des gros tournois et on espère qu'il avance dans ces gros tournois-là. Son classement, en tout cas, le justifie. À Marrakech, par contre, c'est un peu plus difficilement... ça fait mal, cette défaite-là aussi, parce que, bon, c'est contre Molkan, un joueur qui aurait dû... bon, je le dis souvent... Le classement n'est pas toujours indicatif, mais quand même, ça aurait dû être à la portée de Félix, n'est-ce pas, Hugues?
Ouais, Alex Molkan, 65e mondial. Bon, une défaite serrée en 3-7 là, au tie-break du 3e, mais quand même, après un bail, c'était son match d'entrée. Là. C'est un petit peu décevant. Là. Donc Félix, encore une fois, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'inquiétude, mais on souhaiterait le voir vraiment enchaîner plus simplement ses matchs de premier tour pour se rendre là où son classement devrait le mener semaine après semaine, c'est-à-dire au moins en quart de finale. Bon, c'était un premier retour sur terre battue rouge. On sait que c'est une surface extrêmement lente. Il faut du temps pour s'habituer. C'est pour ça qu'il s'est sûrement inscrit à ce tournoi-là pour aller trouver ses repères un peu sur terre battue rouge. Il a fait le double aussi, comme on le sait hier, à Monte-Carlo avec Wawrinka, qui a aussi perdu malheureusement. Mais je pense qu'il veut des minutes, il veut des heures sur terre battue rouge pour arriver en pleine forme pour les grands tournois. C'est-à-dire Monte-Carlo qui commence cette semaine là, pour lui aussi en simple. Mais je pense que c'était pour avoir quelques heures là, sous la ceinture sur terre rouge, mais c'est une défaite qui est un peu décevante.
Nico, est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter?
Non, je ne pense pas vraiment devoir pardon, ce qu'il va faire donc à ce nouveau tournoi, ben pas ce nouveau tournoi, mais le prochain tournoi à Monte-Carlo, parce que présentement, je pense que tout arrive à point pour Félix. Il a connu un début de saison, il a surfé sur une immense vague, on le sait. Ensuite, creux de vague lors des tournois aux États-Unis. Et là, Monte-Carlo, terre battue, on sait que Félix aime s'entraîner aussi sur la terre battue. C'est un gars qui aime beaucoup cette surface-là. Je pense aussi que c'est à son avantage de la manière dont il joue. Je pense là, que tout arrive à point pour Félix. Et s'il a un moment pour se relever, c'est maintenant. C'est à Monte-Carlo devant une foule française, devant une foule qu'il aime de plus en plus aussi, je pense. Donc, c'est le moment là, pour Félix parce que oui, bon, il ne faut pas s'inquiéter. Il est quand même encore dans le top 10 mondial, c'est un des meilleurs joueurs sur la planète. N'en demeure pas moins qu'il doit gagner des matchs, il doit accumuler les victoires. Et bien là, ce serait le temps pour Félix.
Ouais. On y reviendra sur Félix quand on parlera de Monte-Carlo, mais ce ne sera pas facile de gagner des matchs à Monte-Carlo. Ouais, c'est ça, on va y revenir un peu plus tard. Mais bon, donc, de ce que j'en comprends, messieurs, pour vous, le bouton panique n'est pas... vous n'avez pas encore appuyé sur le bouton panique. Et de toute façon, on en a parlé dans les dernières semaines. Bon, c'est des fêtes à Indian Wells et Miami, oui. Elles étaient décevantes, mais en même temps, quand on regarde le contexte de ces défaites-là, c'était vraiment pas si mal. Comme je l'avais dit, Kecmanovic, c'était pas le bon timing pour l'affronter. C'est un joueur qui arrivait sur des bonnes sensations. Et Van de Zandschoop, c'est jamais un adversaire facile à affronter. Là. Alors, bon, c'est plus décevant dans le cas de Marrakech, mais je suis d'accord avec vous que c'est pas le temps d'appuyer sur le bouton panique dans le cas de Félix. Et qui sait, peut-être que à Monte-Carlo, ce sera il va réussir à tourner le vent de bord, comme on dit. Bon, messieurs, il y a eu deux grosses nouvelles cette semaine dans notre revue d'actualité. Je vous invite à écouter ceci.
Aaron Rodgers here, and we've been talking about my comeback, and he's been hyping me up and getting me ready for Wimbledon. So
hype man,
can't Wimbledon. Wait. Yeah, I thought you knew.
What about US Open?
Wimbledon's before the US Open. I gotta play Wimbledon first. Wimbledon. All right.
Messieurs, on a appris le retour de Serena Williams cette semaine. C'est un peu bizarre le contexte dans lequel elle a fait cette annonce-là. Je ne sais pas si c'était prévu, si c'était une réponse de dernière minute à autre chose. Elle était dans une conférence sur, je me souviens bien, sur le Bitcoin. D'ailleurs, Hugues, surpris que tu n'étais pas là. Ah, c'était à cause de la COVID. Tu ne pouvais pas y être. Mais non, retour de Serena Williams. Est-ce que ça vous a surpris, messieurs? Moi, je suis tombé en bas de ma chaise. Nico, t'as réagi comment à cette annonce-là?
Ben d'abord, qu'elle le fasse avec Aaron Rodgers, qui est l'un de mes quarts arrière préférés, là, probablement dans mon top 3. Je pensais pas que c'était deux personnes qui fitaient ensemble. Je pensais pas que c'était deux amis. Bref, en tout cas, ça a l'air de coller. Mais non, mais Serena, tu sais, on le dit depuis longtemps au podcast, ce qu'elle cherche, elle, c'est de battre le record de Grand Chelem. La seule chose qu'elle veut faire avant la fin de sa carrière, c'est ça. Je ne pense pas que les 1000, ça l'intéresse. Je ne pense pas que de grimper au classement, ça l'intéresse. Ce qu'elle veut faire, c'est marquer l'histoire. Mm. Elle l'a déjà fait sur le plan social, sur le plan historique, mais je pense qu'elle veut rester dans les livres d'histoire, dans les livres des records pour ce fameux 24e Grand Chelem. C'est ce qu'elle recherche. Est-ce que ce sera Wimbledon? Je ne sais pas. Je pense plutôt que Wimbledon servira de préparation pour le US Open. On sait que Serena peut jouer sur le gazon. Elle a déjà gagné ce tournoi-là. Mais je pense que ce gros tournoi-là d'envergure sera surtout préparatif là, pour la fin septembre, pour le début septembre pardon, au US Open. Mais c'est clair qu'elle, son objectif, c'est plein feu sur un autre titre.
Ouais.
Hugues, est-ce que tu pensais qu'on allait la revoir non seulement cette année, mais peut-être juste la revoir point? As-tu été surpris de cette nouvelle-là?
Ouais, je suis un peu surpris du côté soudain de cette annonce. En même temps, elle veut aller chercher ce record, comme le disait très justement Nico. Et à chaque année, ça va être de plus en plus compliqué. Donc, il fallait qu'elle fasse un move cette année. Puis effectivement, sa préparation va être en vue du US Open. Je serais pas surpris qu'on la voie à Toronto, à l'Omnium Banque Nationale, ce qui serait une excellente nouvelle. Donc Wimbledon est sans m'être confirmé. Mais elle va avoir besoin d'une coupe de matchs sur dur aussi avant l'US Open. Évidemment, le WTA 1000 de Toronto serait l'endroit idéal pour poursuivre sa préparation. Mais c'est pas gagné. Si Serena revient, c'est parce qu'elle y croit, elle va tout donner, puis c'est une compétitrice féroce, on le sait, mais je serais pas prêt dans mon jeu des prédictions, même si j'ai des places à regagner, à miser sur Serena pour les 1000 de cet été, puis pour la fin de la saison, mais je pense que c'est sa dernière vraie chance cette année pour battre le record. C'est ça qui
est connu. Alex, question pour toi, pour le gars des coms, on a vu qu'elle a fait son annonce un peu de manière brouillon, est-ce qu'elle a été préméditée dans son annonce?
Ben, là, la question que tu poses, c'est parce qu'il y a un sous-entendu à ça, là, c'est que la même journée, on a appris que Mouratoglou, qui était l'entraîneur de Serena Williams, allait devenir l'entraîneur de Simona Halep. Ouais. Et aux dernières nouvelles, je ne sais pas pour vous, messieurs, moi, je n'étais pas au courant que Mouratoglou et Serena Williams avaient décidé de ne plus travailler ensemble. Je ne sais pas si vous le saviez. On a comme appris les deux nouvelles la même journée. Alors, je sais pas. Est-ce que c'était une réponse à ça, Nico? Ça se peut. Je veux dire, pour qu'elle fasse une story Instagram sur le fly comme ça avec Aaron Rodgers, elle disait « Hey, by the way, je joue encore au tennis. » Tu sais, quand l'annonce de Mouratoglou est sortie, il y en a qui ont dit « Est-ce que Serena est à la retraite? » Puis, je pense que la question était tout à fait légitime parce que même nous, on se disait « On va-tu la revoir? On va-tu pas la revoir? Enfin, oui, ça se peut que ce soit une réponse à ça. En même temps, je trouve que c'est un bizarre de sous-entendu. Est-ce que ça sous-entend que ça s'est mal... Je veux pas aller plus loin qu'il faut, là. Est-ce que ça s'est mal terminé avec Mouratoglou? Parce que, je veux dire, les deux n'ont pas fait d'annonce et là, soudainement, on apprend que les deux...
Oui, c'est confirmé. C'est confirmé là, sur plusieurs sites, là, dont Fox Sports, que le split est officiel entre les deux. Là. Donc, au début, c'était parce qu'elle était blessée, mais là, c'est visiblement pas ça. Là. Donc, il semble que cette séparation soit officialisée. Là.
Et là, si je comprends bien, Serena Williams, son plan, c'est de retourner au peut-être tournoi le plus prestigieux au monde, sans vraiment de préparation, avec, entre guillemets, pas d'entraîneur.
Un bon plan.
Non, mais, écoute, à moins qu'elle... Je dis pas qu'elle a absolument besoin, là. Je veux dire, la fille, c'est juste que ça me semble que si t'es en mission pour un 24e titre Grand Chelem, pour toucher l'histoire, il me semble, a priori, je veux pas la sous-estimer, mais qu'elle se met pas dans des conditions gagnantes. Je me trompe-tu?
C'est clair. C'est clair. Puis s'il y a une surface sur laquelle elle peut revenir sans que ça paraisse trop difficile, c'est bien le gazon. Puis comme je le disais, je pense que sa préparation, c'est Wimbledon pour le US Open. Donc, je pense pas que dans sa tête, elle se dise « Il faut absolument que je remporte Wimbledon, c'est ma chance, je vais y arriver. » Je pense vraiment que ce soit une pratique, une simulation pour le tournoi américain en septembre.
Hugues, t'as l'air moins d'accord que
ouais, j'ai l'impression, il est tôt encore, là, je pense qu'on va savoir peut-être dans les prochains jours qui va la préparer pour Wimbledon, éventuellement l'US Open. Je pense qu'il devait prendre une décision. Je pense que l'opportunité pour Mouratoglou de coacher Halep est arrivée. Il y a eu une discussion avec Serena et c'est là qu'ils se sont entendus pour pas poursuivre. C'est intéressant Halep parce que, évidemment, aussi, c'est un... dans la deuxième phase de sa carrière, je vais le dire comme ça, c'est une très grande championne, mais je pense qu'elle suit un peu le même parcours que Serena dans une moindre mesure, et je pense que Mouratoglou a mis sur lui pour redonner cet élan qu'il avait réussi à donner à Serena dans la deuxième phase de sa carrière. Donc c'est un match vraiment intéressant, le Mouratoglou avec Alep. Et Serena, je pense qu'on va l'avoir entourée d'un coach d'ici quelques jours. Là, c'est une question de temps avant qu'on sache qui va l'aider. Je pense pas qu'elle va faire ça tout seul jusqu'au US Open.
Allez, gars, on jase, là. Mais il me semble, si je suis Serena, là, j'appelle Roger. Je dis, j'ai envie de jouer Wimbledon. T'es encore ses sidelines. Viendrais-tu t'asseoir dans mon box? Non, mais ça serait pas pire, pareil. Ça serait incroyable. Ça serait vraiment hâte de les avoir comme équipe.
Ce serait très cool, d'autant plus que, bon, ça fait, vous le savez, là, ça fait plusieurs mois que je vous le dis, Roger devrait annoncer sa retraite à Wimbledon. J'ai pas d'information, évidemment, qui vient avec ça, mais tu sais, de voir peut-être le dernier tour de piste là, de Williams et Federer sur le même terrain, sur le même tournoi pendant la même année, ce serait quelque chose d'assez extraordinaire, mais j'ai envie de croire que les deux ont encore le feu sacré, du moins, je l'espère. Mais j'ai la forte impression là, que ce sera la dernière fois qu'on les verra vêtus de blanc à Wimbledon cette année. Donc, ça va être à nous d'en profiter au maximum.
Ben, en tout cas, moi, Federer, à Wimbledon cette année, je vais le croire quand je vais le voir. Parce que, c'est en tout cas, je ne suis pas 100% convaincu que ça va être le cas. En tout cas, pas comme joueur. Il va peut-être bien être là, mais comme joueur, en tout cas, je vais le croire quand je vais le voir. Tant mieux s'il est là comme joueur. Bon, ça va être intéressant de suivre Simona Halep et Serena Williams dans leur quête pour remporter un autre grand chelem. C'est deux excellentes joueuses, deux excellentes. Simona Halep, je pense qu'elle a plus rien à prouver au monde du tennis. Comme Hugues le disait, ce sera peut-être pas mauvais de peut-être retrouver le chemin de la victoire. Et par victoire, j'entends titre grand chelem avec Mouratoglou. C'est certainement un entraîneur qui peut lui permettre ça. Mais si on va faire une courte pause, au retour, on va parler de troubles financiers chez les joueurs de tennis et également, on fait nos prédictions en prévision du tournoi de Monte-Carlo. C'est un sujet qui a fait jaser beaucoup dans les dernières semaines, pas juste dans le monde du tennis, mais les problèmes financiers chez les athlètes à la retraite. C'est pas nouveau. J'ai déjà vu un documentaire sur Netflix qui relatait beaucoup de problèmes financiers chez les anciens athlètes. Et bien, le tennis ne fait pas exception, Hugues, et puis il y a des légendes qui l'ont confirmé.
Oui, puis ce qui m'a intéressé dans le sujet, qui n'est pas un nouveau sujet, là, mais c'est de voir deux grands champions de Wimbledon avec les mêmes initiales, BB, donc Boris Becker, Bjorn Borg, qui font face aux mêmes situations, puis qui abordent aussi la situation avec des solutions un peu similaires. Commençons par Becker peut-être, parce que c'est l'histoire qui est la plus récente, qui n'est pas conclue encore. On sera... On connaîtra sa peine précise le 24 avril, bien qu'on sait que 4 chefs d'accusation ont été retenus contre lui sur les 24, sur des dettes d'environ 80 millions. On se demande comment il peut arriver à une situation comme ça. Becker, 54 ans, donc évidemment, puis c'est drôle, enfin c'est pas drôle, mais un des chefs d'accusation était de rendre ou de vendre ses trophées et raquettes et tout ça, memorabilia, et ses trophées ont disparu. Donc il sait pas où sont ses trophées de Wimbledon, très très étrange là, donc ça faisait partie donc des chefs d'accusation, donc les trophées sont apparemment perdus dans la nature. Bjorn Borg avait aussi mis de l'avant la possibilité, après avoir fait faillite deux fois, en 89 et en 97, deux fois. Bjornberg entouré de gens peu scrupuleux qui ont abusé de sa générosité et de sa candeur, je vais dire, ou de sa naïveté. Il a perdu beaucoup d'argent. C'est pas des sommes aussi astronomiques que Boris Becker. On parlait de 1 million de dettes et de taxes à payer au gouvernement suédois. Mais Borg avait aussi suggéré vendre ses trophées de Wimbledon, ses 5 trophées de Wimbledon. John McEnroe l'avait appelé, il dit « Écoute, Bjorn, tu ne vends pas tes trophées, je vais les acheter si je peux aider, mais tu ne vendras pas tes trophées de Wimbledon. » Finalement, il avait conservé ses trophées, mais écoute, c'est vraiment triste, ces histoires-là. Et Becker, qui n'est pas sorti du bois, il pourrait faire de la prison avec ça. Donc, on saura sa peine officielle là, le 24 avril prochain.
Ouais, c'est dommage parce que, bon, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes athlètes sont mieux entourés à ce niveau-là. Ils sont pris en charge beaucoup plus rapidement au niveau financier qu'ils l'étaient à l'époque, je pense. Ouais. Je ne pense pas me tromper en disant ça. C'est vrai dans tous les sports. Mais en même temps, c'est tellement dommage de voir des légendes comme ça avoir des problèmes financiers alors que, bon, à l'époque, ils devaient être parmi non seulement l'élite sportive, mais l'élite financière de leur génération à cause des revenus qu'ils réussissaient à générer. Évidemment, les revenus n'étaient pas à la même hauteur qu'ils étaient aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, un 35e joueur mondial fait peut-être plus d'argent qu'un gars top 5 dans les années 80. Là. Mais bref, je ne sais pas, Hugues, tu vois ça comment, cette situation-là? As-tu plus de la pitié ou t'es plus, je ne sais pas, est-ce que tu te dis, ben, en même temps, ils auraient dû gérer leur truc? Je sais pas.
Ben, il faut toujours être prudent de qui tu t'entoures, mais je crois que les firmes d'agences, d'athlètes aujourd'hui, là, les plus connus, je pense à IMG notamment, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi non plus. Là. Donc, je pense que c'est que tout l'entourage aussi, ça s'est professionnalisé. Mais évidemment, il y a toujours des risques. Souvent, tu pars en affaires, tu as accumulé beaucoup d'argent, tu dis « OK, je pourrais investir 100 millions ou même 1 million » et tout d'un coup, cette initiative-là ne fonctionne pas. Donc, tu te retrouves dans une situation plus compliquée. Mais je pense que si je prends Borg surtout, il y a beaucoup de gens qui ont abusé de son argent. C'est lui qui payait tout le temps. Les gens servaient de sa carte de crédit pour lui, donc pour leurs dépenses. Donc là, il aurait pu être sûrement plus prudent. Son entourage partait dans son jet privé après sans lui. Donc je pense qu'il s'est fait abuser là, vraiment clairement durant cette époque-là. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ces histoires-là, tout le monde est plus prudent. Et je pense que les jeunes athlètes s'entourent mieux et les grands champions aussi sont entourés d'agents de très haut niveau. Et il y a de la gouvernance qui s'est mise en place au fil des années aussi qui vient mettre certaines barrières là, pour éviter que des situations comme celle-là se reproduisent.
En tout cas, si un jour j'apprends que Roger Federer ou Novak Djokovic a des problèmes financiers, je vais tomber encore plus en bas de ma chaise, si je veux dire ça. Mais je suis content qu'on en ait parlé, Hugues, parce que bon, c'est quand même une réalité peut-être un peu moins présente aujourd'hui, quoique on verra dans 20 ans. Là, mais il reste que c'est quand même triste de voir des légendes comme. Puis c'est eux qui sont sortis publics. Bon, Becker, parce que c'est en cours, puis là, on l'a su, mais Bjornberg n'était peut-être même pas obligé d'en parler. Là. Alors qu'il y en a peut-être beaucoup qui n'en parlent même pas, puis qui ont ce même genre de problème financier-là. Alors, je ne sais pas, Nico, si tu voulais ajouter quelque chose sur ce dossier-là.
Bien, c'est dans l'air du temps. Je ne sais pas si vous avez vu passer la semaine dernière un tweet, une enfilade de tweets de Chris Pronger, qui est un ancien défenseur de la LNH, là, un membre du temple de la renommée, qui disait justement ça. Il dit, écoutez, je suis un des chanceux, j'ai fait 100 millions au cours de ma carrière. Présentement, je n'ai pas de problème financier, mais un joueur de hockey sur deux ou presque connaît des problèmes financiers après l'annonce de sa retraite. On a beau faire des millions, Hugues l'a dit, il y a beaucoup de gens qui profitent je parle comme si c'était moi, mais j'en suis pas un, mais qui profitent de leur argent, qui se sentent redevables aux membres de leur famille, leurs amis qui les ont amenés au sommet. Puis il dit aussi, on change de beat de vie complètement là, pendant 5, 10, 15 ans. Il dépense des dizaines de milliers de dollars par mois en physio, en nourriture, en maison, en voiture. Il y en a qui dépensent certains bonnies. Mais après, lorsque la retraite tombe et qu'il n'y a plus de rentrée d'argent, c'est là que le mur frappe et certains athlètes ne s'y préparent pas. Donc, c'est une belle leçon, tant dans le hockey que dans le tennis, que dans le soccer, que dans le golf. Bref, ça s'applique à tous les sports. Oui, ces athlètes-là sont des multimillionnaires, des mini-PME. Mais si on n'est pas préparé, il y a un mur qui peut frapper vite. Et la preuve, encore une fois, avec les deux joueurs de tennis qu'on vient de nommer.
Et les gars, On parle des plus grands champions. Là. Je vais mettre sur le lot aussi Diego Maradona. Écoute, la légende du soccer là, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Maradona a fait faillite complètement aussi. Beaucoup de gens qui ont abusé de lui. Puis ça, c'est tout récent. Là. C'est il y a quelques années.
Oui, puis ça s'applique même. Tu sais, là, on met sur un piédestal les vedettes, si on veut, mais imaginez des athlètes qui ne sont pas d'immenses vedettes. Tu sais, je pense à un Donald Brashear, notamment. Rappelez-vous, il y a un an ou deux, lorsqu'on apprenait qu'il travaillait dans un Tim Hortons, mais ce gars-là a fait la Ligue nationale de hockey. Ouais. À un certain moment, il n'était pas à plaindre du côté financier. Et là, il se retrouve à travailler dans une chaîne de restauration rapide. Ça peut arriver à tout le monde, aux athlètes qui s'y préparent et à ceux qui ne s'y préparent pas. Donc, non, c'est une situation... c'est un vice caché, je pense, dont on ne parle pas assez. Puis c'est intéressant qu'on le souligne aujourd'hui.
Gars, je suis tellement heureux de travailler avec deux garçons pertinents comme vous. Une fois de plus, excellent travail. Messieurs, revenons au tennis plus spécifiquement, parce que le tournoi de Monte-Carlo s'en vient. Moi et Hugues avons fait nos prédictions. Beaucoup de choses intéressantes à surveiller. Bon, on va parler de Félix, mais d'abord, je veux qu'on parle du retour de Novak Djokovic. Et lui, il est mieux d'attacher sa tuque parce que il a choisi, d'un, un gros tournoi pour revenir, et de deux, le tableau, lui, n'est pas nécessairement favorable pour un retour, comment dire, en douceur, Nicolas Richard.
Non, mais tu sais, s'il y en a un, puis combien de fois on le dit que s'il y en a un qui peut revenir dans des situations précaires, c'est bien Djoko, mais tu le dis, ce sera un tournoi ultra, ultra relevé. J'ai hâte de voir la manière dont la foule française va l'accueillir. Est-ce que ce sera des huées? Est-ce que ce sera de l'acclamation devant ce dieu invénéré du tennis? Honnêtement, je suis comme à mi-chemin dans ma réflexion. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Hâte de voir à quoi ça va ressembler, mais assurément que c'est un tournoi qui sera ultra, ultra relevé. Tu le dis. Ce ne sera pas simple pour Djoko, surtout qu'il va affronter rapidement des joueurs de grand talent, des joueurs du top 20, qui est toujours intéressant ce tournoi. Hugues en parle régulièrement là, de Monte-Carlo sur la grosse terre rouge. Non, j'ai hâte de voir Djoko, puis c'est un tournoi où j'ai l'impression que tout peut arriver. Là, on pourra couronner peut-être un des trois meilleurs joueurs, trois têtes de série, ou ça peut être un 20e qui l'emporte. Tout est accessible sur cette terre battue. Ce serait intéressant à surveiller.
Ouais, surtout Djoko, oui, et tu fais bien de le dire, surtout sans Nadal, qui était, probablement le meilleur joueur depuis le début de la saison, là, sans aucun doute. Écoute, tu parlais des joueurs qu'il va affronter. Trois Espagnols potentiels dès les premiers tours. Fokina, Roberto Bautista Agut et Carlos Alcaraz, je dis les trois premiers tours, à ses trois premiers matchs. Ça serait jusqu'en quart de finale. Mais si ce n'était pas Roberto Bautista Agut, ce serait Daniel Evans, qui ne serait pas si simple que ça. Et en quart de finale, écoutez bien ça, les athlètes, les joueurs potentiels qu'ils pourraient affronter. Bon, Carlos Alcaraz est le favori. Sinon, ce serait Taylor Fritz, Marin Cilic ou Sébastien Corda. Il n'y a pas de candidat facile là-dedans. Un tableau vraiment, mais vraiment difficile. Ça va être un retour au jeu, comment dire, significatif pour Novak Djokovic parce qu'il peut frapper un grand coup en disant « ben voici, je suis encore au sommet » ou on va pouvoir commencer à avoir des doutes. Tu t'attends à quoi, toi, Hugues?
Ben, on va voir assez vite où il se situe. Là. Effectivement, c'est un tableau costaud. Tout le monde a dans sa mire le quart de finale, Alcaraz, potentiel, Djokovic. C'est pas garanti qu'il va s'y rendre. Là. Donc ça, c'est le premier point. Mais s'il s'y rend, bonne chance. Juste pour revenir sur comment la foule va l'accueillir. Bon, il y a toujours ces petits matchs exhibition en marge du tournoi. Il y avait un petit serve and giggle avec Wawrinka devant le casino de Monte-Carlo ce week-end. Apparemment, ça s'est bien passé, mais bon, il n'y avait pas beaucoup de monde. On le saura plus quand son premier match sera joué. Mais je m'attends à ce qu'il y ait un accueil poli. Je ne m'attends pas à ce qu'il soit trop chahuté par la foule de Monte-Carlo qui est composée de gens de la France, de l'Italie. C'est assez relax comme ambiance. Ce n'est pas l'US Open, là. Donc, je ne m'attends pas à ce que ça soit trop rowdy là, ou qu'il y ait trop de bruit là, sur ce que les gens pensent de sa performance et de ses positions depuis quelques mois. Cela dit, même Djokovic un peu limite les attentes en disant « je vais voir où je me situe, on va voir comment ça va, je me sens pas à 100%, je recommence tranquillement ». Mais tout le monde sait que Monte-Carlo, puis je le répète constamment, c'est la mesure souvent de ce qui va se passer dans le reste de la saison de terre battue d'ici Roland-Garros. Souvent, le joueur qui gagne à Monte-Carlo gagne Roland-Garros aussi. Habituellement, c'est Nadal. Nadal n'est pas là cette année. C'est là qu'on va voir les Alcaraz, Roux, des autres experts de terre battue là, qui vont peut-être prendre la relève.
Quelques matchs intéressants à suivre, messieurs, au premier tour. Joe Wilfried Tsonga contre Marin Cilic. Bon, je dis intéressant parce que... Ouais, t'as dû pour Geoffrey Nsoga. On va en parler la semaine prochaine un peu plus en détail. Là, il a annoncé sa retraite cette semaine. On a volontairement pas trop effleuré le sujet parce que on a préparé une entrevue avec Louis Borfiga un peu plus tard cette semaine qu'il l'a suivi dans ses tout débuts de carrière. Alors, on va en parler un peu plus longuement la semaine prochaine de Joe Wilfried Tsonga. Je pense qu'il le mérite sans aucun doute. Match intéressant également à suivre du côté de Monte-Carlo, là, avant qu'on parle de Félix. Diego Schwartzman contre Achanov au premier tour. Ça, c'était un match bien intéressant, mais Schwartzman l'a emporté. Et ça va donner un match de deuxième tour contre Fukovic, qui va être aussi intéressant. Il y avait beaucoup de matchs. Oui.
Mais ce que j'allais dire dans cette même veine là, des matchs intéressants, c'est pas un match là, où ce sera peut-être le plus relevé, mais le match Musetti-Benoît Paire, j'ai vraiment hâte de voir comment Paire va être accueilli chez lui en France. J'ai hâte de voir comment lui, on sait à quel point Benoît Paire peut être talentueux, ça reste un des bons joueurs de tennis sur la planète. Ouais. Mais Musetti, c'est un gars qui pousse aussi, un amant de la terre battue. Benoît Paire, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Donc, ça se peut que ça fasse des flémèches, là, ce match-là, sans que ce soit nécessairement là, le plus mémorable du tournoi. Mais quand même, pour un premier tour, ça pourrait être assez relevé.
Ben, tu fais bien de le mentionner. Ça place la table pour le prochain sujet parce que ce sont les deux adversaires potentiels de Félix pour le match de deuxième tour. Et on regardait Félix. On disait en début d'émission, ça va être compliqué pour Félix. Il a un bail au premier tour en raison de son classement. Après ça, ça va être compliqué, pas à peu près. Si les favoris l'emportent, au deuxième tour, ça va être Paire ou Musetti. Ça, on en a déjà parlé. Après ça, ce serait possiblement Schwartzman. Après ça, Stefanos Tsitsipas, pas le dernier venu sur la terre battue. Quant à moi, il est le joueur qui va remporter ce tournoi-là. On fera nos prédictions un peu plus tard. Mais sinon, après, ce serait Zverev et potentiellement Novak Djokovic. Il a un tableau vraiment, mais vraiment compliqué, Félix Auger-Aliassime. Tant mieux s'il avance loin, mais il va relativiser les choses une fois de plus dans le cadre de ce tournoi-là, Hugues.
Ouais, c'est le tableau de la mort. Hein. Quand j'ai vu ça sortir, j'ai dit, voyons, c'est pas possible. Même son premier match contre Musetti, Huppert ou Benoît Paire va être quelque chose à suivre. Là. Moi, j'ai bien hâte de voir ce match-là parce que ça va être un match excitant, je suis convaincu. Félix joue à domicile, je vais le dire comme ça. Hein. Vous savez que Monte-Carlo est son lieu de résidence, c'est son club d'entraînement régulier, donc il va être à l'aise, je suis convaincu. Mais quel tableau difficile pour lui. Je voulais faire un petit point parce qu'on parlait des retours et des matchs de premier tour. Wawrinka qui fait un retour aussi après 13 mois d'absence, deux opérations au pied gauche. Wawrinka qui a perdu son premier match contre Bublik, qui semblait pas très à l'aise après avoir gagné le deuxième set. Il semblait avoir mal à son pied encore. Il se déplaçait pas très bien. Il a perdu en double avec Félix aussi hier. Donc, je pense que le retour de Wawrinka va être un gros défi. C'est déjà terminé pour lui à Monte-Carlo.
Ouais, il a tellement pas joué dans les dernières années, dans les derniers mois, qu'il ne faut pas avoir trop d'attentes, même si c'est un ancien champion de Grand Chelem. Rapidement, messieurs, qui va remporter ce tournoi-là? Hugues, tu as choisi qui comme champion?
J'ai mis Casper Ruud. Vous savez, depuis notre spécial de fin d'année 2021, pour moi, Casper Ruud était la révolution de l'année, la révélation de l'année. Je dirais pas révolution, mais je pensais que Casper Ruud serait aussi un des facteurs pour Roland Garros cette année. Je l'ai mis comme gagnant à Monte-Carlo contre Tsitsipas. C'est la finale que j'ai prévue dans mes prédictions. Mais encore une fois, Alcaraz, il peut se passer. Je m'attends à une demi-finale Alcaraz-Ruud. Je reviens un tour en arrière. Donc, ça va être un tournoi vraiment intéressant. Puis je vous le dis, c'est le tournoi qui révèle ce qui va se passer pour le reste de la saison sur terre battue. Ceux qui commencent fort, généralement, ils continuent fort jusqu'à Roland-Garros.
Ah ben là, Hugues, pour la course au jeu des prédictions dans le duel des podcasts, on a tous nos œufs dans le même panier, je te dirais, parce que ma finale est également Casper Ruud contre Stefanos Tsitsipas. Tu as qui comme champion, toi?
J'ai mis Ruud comme champion.
Casper Ruud. Moi, j'ai Tsitsipas. OK, on a divisé nos œufs.
C'est bon.
On split le risque. On va espérer un parcours intéressant de ces deux joueurs-là parce que sinon, on est dans le trouble. D'ailleurs, on a pris les devants là, cette semaine dans le duel des podcasts pour la première fois de la saison. J'oserais dire, grâce à ma prédiction de Swiatek comme championne qui nous a
remporté tu peux prendre le crédit, tout à fait.
Beaucoup de points. Mais pendant ce temps-là, on est encore loin derrière Abraham qui lui, connaît un succès fou. Nico, qui va remporter Monte-Carlo?
J'adore les chances d'un certain Alcaraz. Les gars, vous le savez, c'est l'héritier de Nadal. Je pense que c'est le moment pour lui de briller. Monte-Carlo, un tournoi de prestige, un tournoi où les gens aiment avoir l'attention, un tournoi où c'est beau, il fait bon vivre, panorama superbe. Je vois la belle bouille d'Alcaraz avec le beau trophée de Monte-Carlo à la fin du tournoi. Je pense que c'est son heure de gloire. Il est rendu là dans sa carrière. Oui, il est très, très jeune, mais je pense, je crois fermement qu'il pourrait instaurer un respect sur la terre battue dont on le sait capable. Je pense que c'est le bon moment pour lui de le faire. Ne dormez pas sur Urkac et un certain Aslan Karatsev qu'on n'a pas vu depuis un bail en demi-finale. Toujours un underdog, Karatsev. Pourquoi pas, mais oui. Donc, Alcaraz, pour moi, ce sera mon choix pour ce tournoi. Le choix logique, vous allez dire, le choix peut-être facile, mais quand même, il est rendu là, je pense.
Ben, Nico, il n'est pas si facile que ça, le choix d'Alcaraz dans ce tournoi.
Il est huitième favori.
Et puis, pas juste ça. Sur son parcours, il a un Korda, un Fritz puis un Djokovic. Dans son parcours, il est dans la même partie de tableau que Djokovic. Ouais. Alors, sa partie de tableau fait en sorte que ça va être compliqué. Alors, est-ce qu'il peut potentiellement remporter ce tournoi-là? La réponse à ça, c'est oui. Est-ce qu'il va assurément remporter ce tournoi-là? Est-ce que c'est un choix si facile que ça? Pas si sûr que ça. Ça va être intéressant à suivre. Enfin, nous, pour le podcast, on va souhaiter une finale Tsitsipas-Casper-Ruud. Si oui, ça voudrait dire qu'on sera en excellente position pour le podcast, pour le jeu des prédictions. Mais si on fait une courte pause au retour, on parle de la Billie Jean King Cup qui sera disputée un peu plus tard cette semaine. Messieurs, avant qu'on passe à l'entrevue avec la capitaine de l'équipe canadienne, Heidi Eltabak, je veux un peu votre feeling sur cette confrontation-là contre la Lettonie, qui a priori pourrait sembler, je ne sais pas, un match prenable, mais il reste que il y a une fille qui s'appelle Yelena Ostapenko, qui connaît une excellente saison, qui est une championne de Grand Chelem, qui va être dans les pattes des Canadiennes. Ça risque d'être un peu compliqué. Hugues, ton feeling sur cette confrontation-là?
Ouais, ben très hâte le week-end prochain, donc à la maison, ce tie de Billie Jean King Cup en direct du Pacific Coliseum à Vancouver. Rebecca Marino qui jouera à la maison pour la première fois, c'est vraiment durant évidemment ce tournoi-là. Leila Fernandez, elles seront les deux leaders de l'équipe avec Gabi Dabrowski au niveau du double. Bon, il y a une équipe qui peut gagner ce taille-là sur papier, mais moi aussi, je reste prudent. Ostapenko, sacrée bagarreuse sur le terrain, donc elle peut causer des surprises, elle peut nous pousser dans nos retranchements à Vancouver le week-end prochain. Elle va jouer sûrement en double aussi. Donc, je nous mets comme gagnante pour cette ronde de Billie Jean King Cup. Mais j'ai bien hâte de voir ces matchs-là le week-end prochain, le 15-16 avril.
Nico, toi, t'es plus confiant que nous, hein?
Ah, loin de moi l'idée de mettre de la pression sur l'équipe canadienne, mais elle ne peut pas perdre. Elle ne peut pas échapper ce match-là à la maison. Tu sais, où on parle de Stapenko, c'est une joueuse que vous savez que j'aime inconditionnellement. À talent égal, tu sais, on prend les deux numéros 1. Je pense que Leila a l'avantage sur Ostapenko. Lorsqu'on regarde plus loin, Marino, l'une des belles histoires de la WTA depuis un an et demi, joue à la maison, chez elle, à Vancouver. Ouais. On a Gabi Dabrowski, qui est l'une des meilleures joueurs en double, l'une des trois meilleures. Ouais. Qui est l'une des meilleures amies de Dabrowski? Carole Jao. Donc, pourquoi pas un double avec une de ses meilleures amies? Je ne vois pas comment le Canada peut échapper ce bris d'égalité, ce match-là, ces qualifs-là. Pour moi, c'est jamais dans la poche, mais ce serait vraiment surprenant que le Canada s'incline.
Ouais, moi, je suis moins confiant que toi, Nico, parce que, bon, Ostapenko, d'abord, elle a présentement l'avantage dans les confrontations contre Fernandez. Elle mène 1-0. Bon, est-ce que c'est si significatif que ça? Peut-être pas, mais Ostapenko connaît une bonne saison présentement. C'est une excellente joueuse de double également. Alors, il y a des chances qu'on la voit en double. Bon, de notre côté, on n'a pas à rougir de ce qu'on peut offrir en double avec Gabriela Dabrowski, qui est une des meilleures joueuses de double au monde. On sait, ça, on le dit à peu près à chaque semaine. Mais il reste que ça va être compliqué. Je pense que le facteur X, c'est le facteur Rebecca Marino, qui peut très bien battre n'importe qui sur le circuit dans une bonne journée. Alors, si Rebecca peut performer au niveau qu'on sait qu'elle peut performer, ben là, le Canada va se donner des excellentes chances de l'emporter. Le facteur à domicile également peut jouer en notre faveur, c'est-à-dire que tu as un certain contrôle sur la surface qui peut peut-être favoriser nos joueuses. on verra. La foule également, mais je
t'es dur, moi, je Alex. Pas... T'es dur, là. T'es dur.
Mais je sais, mais c'est parce dur. Que c'est le facteur Ostapenko qui, pour moi, est la meilleure joueuse présentement.
Je suis tellement convaincu, les gars, puis c'est peut-être moi qui est trop romantique, là, mais je suis. Si le Canada perd, on entame la prochaine émission avec moi qui chante l'hymne national letton. Ce sera la
guerre. Lettonie. Non, mais sérieusement, les gars, je pense qu'on va aller le chercher, mais c'est pas gagné d'avance. Ça va être un match-up très serré, mais je pense qu'on a les éléments en place pour aller chercher cette victoire-là. Mais ça va être un week-end très excitant le week-end prochain.
D'ailleurs, messieurs, j'ai rencontré la capitaine de l'équipe Heidi Altapak un peu plus tôt cette semaine. Voici ce que ça a donné comme entrevue. Au podcast Sur la ligne, on a la chance de recevoir la capitaine de l'équipe de la Billie Jean King Cup canadienne, Heidi Altapak, qui est également une ancienne joueuse. Heidi Altapak, welcome to Sur la ligne podcast.
Thank you. Thanks for having me.
First of all, maybe just talk to us about how is it to be captain? How do you like it being captain of the Canadian team?
I actually like it a lot, and I really enjoy it. You know, I have a great relationship with all the girls, so it makes it very enjoyable. And you know, I also really enjoy a couple weeks a year that I'm with them in that type of setting. It's very different than you know, the regular tour. So I think the players do enjoy it as well. It's more like a team/family feeling. So no, I definitely do enjoy it, and you know, I feel very very honored to have that role.
As a player, when you were traveling around the world, would you ever imagine that you'd be in that position, being captain? Was it something that you had in mind?
You know what? I did. When I was playing, maybe not. But once I retired, you know, it was always like a goal of mine. And I just didn't expect it to come so soon. You know, I thought maybe I'd have to wait a couple of years. But you know, the opportunity came pretty quickly. And like I said, just feel very grateful. And, you know, I've been really enjoying it ever since.
Alors, ce que j'ai demandé à Heidi, c'était d'abord comment elle trouve ça d'être capitaine. Elle dit c'est une expérience que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup être avec les joueuses. J'ai demandé aussi, bon, quand tu étais joueuse puis que tu voyageais un peu partout autour de la planète, est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête? Elle dit non, pas comme joueuse, mais dès que j'ai pris ma retraite, c'est venu assez rapidement dans ma tête. Je pense qu'elle est bien contente de son expérience. So, Heidi, let's talk about your players now. First of all, quick word on the confrontation. It's not going to be easy against Latvia. Obviously, we have a player like Yelena Ostapenko, but what's your first take on that confrontation? How do you see it?
Yes, I mean, we're obviously up against a tough opponent, so we know it's not going to be easy. You know, obviously, they have Ostapenko, a Grand Slam champion and also a great doubles player. So I know she's going to be carrying their team, and she's definitely a tough opponent. But, you know, I believe in my players, and they're definitely up for the challenge. And, yeah, they look forward to competing and fighting hard on court, and most importantly, playing in front of a home crowd, which... you know, it was very exciting. And, you know, for someone like Rebecca, it is her hometown. And, you know, someone like Layla, who thrives with big crowds, I think it's going to be, you know, really fun to see her, you know, compete in that setting. And it is personally my first home tie. So, you know, very, very excited to experience that. But yeah, so it's going to be, it's definitely going to be tough, but we're definitely up for the challenge.
Alors, je demandais à Heidi, bon, la première des choses, c'est comment vois-tu la confrontation là, rapidement? Fais-nous une analyse rapide. Elle dit, ça va être difficile. Bon, évidemment, il y a une joueuse comme Yelena Ostapenko qui est une championne des Grands Chelems, elle l'a mentionné. Elle dit, par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que, bon, le fait de jouer à la maison, ça pourrait aider. Bon, d'une part, Leila Fernandez joue bien devant des belles foules. Rebecca Marino va jouer à la maison, c'est sa ville natale à Vancouver. Heidi Altapak, elle dit aussi, moi, ça sera mon premier match en tant que capitaine dans une ville canadienne. Alors, ça va être excitant, ça va être difficile, mais quand même, elle croit en son équipe. Maybe talk to us about the Latvian team first. Obviously, we know a bit more about Yelena Ostapenko, but maybe give us a scouting report about on the other players that we might not know as well.
Yes, so I actually have not seen two of their players play myself, but you know, I know they have a young up-and-coming player who you know, has recently had a lot of wins on the ITF tour. So you know, it looks like she's young and fearless and has a lot of matches under her belt. And they also have another player, I think her name is Martinsova, where she you know, she's been on tour for a while and you know, has played in some Grand Slams, has experiences. But you know, I think at the end of the day, we just have to go out there and you know, treat this like any other tie. You know, get focused every match, whether it's Ostapenko or anyone else, really. So it's going to be tough, but yeah, we're up for it.
Alors, je lui ai demandé quel. Bon, on connaît un peu Ostapenko. Peux-tu nous parler un peu du reste de l'équipe? Elle dit ben, j'ai pas eu la chance de voir en personne tous les joueurs, mais je sais qu'il y a une joueuse qui a bien fait sur le circuit ITF. On a une autre jeune joueuse qui, bon, peut faire des flamèches également. Maybe on the Canadian side, obviously, we have Layla who can pretty much beat anyone on the circuit. You have Rebecca who can also pretty much beat anyone on a good day. How do you see this this tie going? I think that the ball is going to be crucial. Am I right? So big weight on Gabriela Dabrowski, right?
I mean, you know, it's hard to predict what's going to happen, but I'm just confident that my girls are going to go out there and produce their best tennis. You know, someone like Layla, she's come through in every tie, and I know, you know, the Billie Jean King Cup brings the best out of her, and you know, she's been a key player for us in the past and continues to be. You know, Rebecca as well. I mean, she's a great mentor, and you know, she's just, you know, a wonderful girl on and off the court. And lately, she's been playing some incredible tennis, and I know she's really dangerous, especially on indoor hard. So, you know, I'm confident in my team, but regardless of what happens, we're going to be ready. And the girls know that it's not going to be an easy task, but they look forward to it.
Alors, j'ai demandé, bon, je dis, bon, Layla peut battre peut-être n'importe qui sur le circuit, Rebecca aussi dans une bonne journée. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de pression pour le double? Elle dit, c'est quoi? Elle dit, tous les scénarios sont possibles, on pourra, une chose est sûre, je crois en mon équipe. Et bon, évidemment, Layla peut effectivement battre à peu près n'importe qui, mais bon, on verra, mais elle croit en son équipe. Maybe give us an update news on Françoise Abanda. She hadn't played much in the last couple of years. She played a little bit in February, if I'm not mistaken, nothing in March. So how is she and where is the level is at?
Yes, so she hasn't been playing a lot of tournaments lately, but I know that she's been training. You know, she's had a big training block with tennis and fitness in Montreal. And, you know, for us in the past, she's been, you know, such a key player, as again, Billie Jean King Cup just, you know, tends to bring the best out of her. And that's where she really performs her best. So, you know, I'm very happy that she's on the team. And yeah, she's a great asset to have, even though she hasn't played many matches, but she's proven in the past that she can go out there and play her best, even with not that many matches under her belt.
Yeah, we've seen that before. Alors, je lui ai demandé, bon, peut-être donner les nouvelles de Françoise Abanda parce qu'elle n'a pas beaucoup joué dans les dernières années. Elle a joué un peu au mois de février, rien au mois de mars. Alors, bon, dans quel état d'esprit elle est, comment elle va finalement? Et elle répond, ben, non, effectivement, elle n'a pas joué beaucoup dans les derniers temps. Par contre, je sais qu'elle s'est entraînée autant d'un point de vue physique que d'un point de vue tennis à Montréal. C'est une fille aussi qui, on l'a vu dans le passé, peut faire de grandes choses sans beaucoup de matchs derrière la cravate. Alors, ben, elle pense que Françoise Abanda peut faire de belles choses si elle a sauté sur le terrain et elle croit en Françoise Abanda. So, Heidi, if how can I say that? If you have a prediction to make, what would be the score?
Oh. I don't know. Canada wins 4-0.
4-0. That's a good score. That's the spirit. Heidi, I won't take much of your time. Good luck out there. Good luck in Vancouver. Oh, maybe before I let you go, how do you feel about having someone who's going to follow the team and make a behind the scene feature? How do you like that? How do you live with that?
Yeah, it's definitely you know, it's definitely a fun experience, and you know, we've had that happen you know, in two previous ties, so the players are kind of familiar with it. And you know, it's for a great cause, you know, try to promote tennis in Canada. So yeah, we look forward to sharing our story with you guys, sharing a little bit of behind the scenes.
Can't wait to see it. So good luck out there. Good luck in Vancouver. I wish you all the best and wish you a 4-0 win for
Thank
Canada.
Thank you so much. Thanks for having me.
Thank you, Heidi. Merci encore à Heidi Altabak et bonne chance à l'équipe canadienne. Hugues, t'as entendu, j'ai posé la question sur le petit projet parce que, bon, il va y avoir une espèce d'émission dans les coulisses là, parce que t'as envoyé quelqu'un poursuivre l'équipe canadienne là-bas.
Ouais, ben on suit l'équipe toute la semaine au niveau des entraînements, au niveau du tirage. Donc, on va être très près de l'équipe là avec des images behind the scenes toute la semaine, avec un feature aussi pour Game Set Canada qui va suivre après l'événement. Donc, on va avoir tous les jours aussi des petits extraits qui vont donner ce qui se passe dans les coulisses de la Billie Jean King Cup avec l'équipe canadienne cette semaine.
Le magna du tennis québécois à l'œuvre, mesdames, messieurs. Nico, comme c'est la tradition, je te donne le mot de la fin.
Bon tennis, Alex. Bon tennis, Hugues. Bon tennis, tout le monde.